Deux questions. La première, il me semble avoir vu ou lu une étude, est-ce que c'est VVF ou pas, je ne sais plus. Il semblerait que il y aurait 80% des espèces, poissons, oiseaux, etc., des espaces maritimes qui auraient disparu. Donc, dans le cadre de la disparition de la biodiversité, est-ce qu'il peut y avoir une confirmation de ce chiffre-là qui paraît gigantesque? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des hypothèses ou je ne sais pas. Voilà. Deuxième chose, deuxième question, si vous permettez, c'est par rapport à la migration des chênes. Est-ce que quelque part ça peut se comparer à la migration de l'humanité pendant des siècles et maintenant la migration qui peut éventuellement être amenée à être faite en quelques, même pas un siècle, par l'humanité montant je sais pas, du sud de l'Afrique vers le nord. Donc la question des migrations, est-ce que... Bon.
Qui veut répondre à ces questions? Allez, Julien Cotte.
Bah, pour le premier chiffre de 80% de disparition des espèces maritimes, c'est ça? Bah, je pense qu'on est quand même d'accord que ça nous paraît surprenant. Enfin, moi, je n'ai pas vu du tout cette étude. C'est énorme. Peut-être, je ne sais pas ce que ça inclut comme espèce, est-ce que ça inclut tous les micro-organismes, je ne sais pas. Enfin, même si ça incluait tous les micro-organismes, je sais pas, moi je suis très surpris par ce chiffre et je pense que vous êtes pareil. Donc,
Excusez-moi pour la technicité de ma question, mais parmi les plantes de très haute altitude, il y a un graminée, une fétuque, Fétuca scoparia, qui a cette caractéristique dans le milieu limnique des marais d'avoir une nécrose centrale et un développement circulaire. Ce graminée résiste à des assez basses températures. Il ne se développe pas, bien sûr, spécialement dans les combats neige, mais pourquoi ne serait-il pas aussi pris en considération pour la botanique de haute montagne, pour parler simplement?
Ok, Gérard, peut-être?
Oui, alors, Festuca scoparia, moi je ne la vois pas du tout dans ce type de milieu. Pour moi, c'est une espèce des pelouses subalpines, pas sur des milieux, enfin mésophiles, pas sur des milieux humides comme ça. Après, oui, il y a d'autres espèces qui pourraient être suivies. Mais donc là, on a fait un choix sur un milieu très particulier à cause justement du lien avec la durée d'enneigement, hein, qui est un lien très fort puisque ça induit une haute spécialisation des végétations qui se développent. Voilà, on a fait ce choix-là. On ne peut pas forcément mettre en place des suivis partout, sur tous les types de milieux, pour des raisons de temps, de personnes, d'argent, etc. Bon, il y a d'autres dispositifs qui en train de se mettre en place. En particulier, il y a un dispositif d'observation sur les lacs altitude, donc qui rejoint un peu votre préoccupation, qui est déjà en place sur un certain nombre de paramètres physico-chimiques avec le laboratoire Géode et l'OHM. L'observatoire Homme-Milieu, hein, c'est ça, hein? Ouais. Sous le pilotage de Didier Gallo à l'université Jean Jaurès, et avec un partenariat qui se développe avec l'Institut Pyrénéen d'écologie de RACA sur le suivi de ce type de milieu, avec certainement à terme une entrée suivi végétation également.
Merci. J'avais vu une autre question, là d'abord.
Oui, je voulais poser une question au sujet du lézard vivipare et dans le Métatron, là. Alors, je trouve que c'est un magnifique dispositif parce que c'est quand même mieux que d'extrapoler à partir de données en laboratoire. Mais bon, ça reste un milieu fermé et une évolution d'une telle importance en température, ça entraîne aussi une modification de la végétation qui là ne peut pas être prise en compte puisque la végétation est la même, je crois, dans les dispositifs aux différentes températures. Et donc, ça ne serait pas le même contexte dans le cadre d'un réchauffement. Et par ailleurs, du fait que c'est fermé, il ne peut pas y avoir non plus de migration, par exemple les proies, les invertébrés, les insectes et autres, qui s'adaptent très vite, qui se reproduisent beaucoup plus vite, seraient sûrement plus les mêmes dans le contexte d'un réchauffement, puisqu'il y aurait une migration. Et pareil, le prédateur peut lui-même être remplacé, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'espèces de lézards méditerranéens, Donc en fait, ce ne serait pas seulement un changement de température, ça serait un changement complet de milieu.
Alors c'est vrai, mais c'est un peu les projets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire qu'on a la possibilité... Donc, les végétations ne sont pas les mêmes dans les enclos après les traitements. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait également un suivi donc, de la végétation dans ces enclos, mais également des insectes. Il y a la possibilité de migrer par des couloirs, je ne vous ai pas présenté parce que ce n'était pas directement sur la thématique. Et donc on étudie également comment les espèces peuvent migrer d'un climat à un autre, à petite échelle évidemment, puisque c'est ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on essaye, c'est de manière simple, là ce que je vous ai montré c'est sur le lézard, après ce qu'on complexifie, c'est qu'on rajoute différentes espèces dans les enclos, et on suit l'impact sur les différentes espèces en termes de survie, mais également de mouvement entre les enclos. Donc, et donc ça nous permet de conclure quelle sera la part du rôle de la migration pour répondre à ce changement climatique. Par exemple sur le lézard, on ne voit pas de gros impacts de la migration face à ce changement climatique. Donc on essaye d'étudier ces différents aspects pour en effet voir les effets directs de la température sur chacune des espèces, mais également sur les interactions entre ces espèces. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est les prédateurs, parce que c'est un peu trop compliqué d'introduire des prédateurs dans un système comme ça, ça ravagerait un peu tout. Mais bon, peut-être un jour.
Ensuite, monsieur ?
Olivier Calais, toujours sur les lézards vivipares. Un détail, parce que je ne voyais pas bien forcément toutes les diapos.
Toujours sur les lézards.
Est-ce que entre la survie des juvéniles et des adultes, il ne peut pas y avoir un effet de concurrence tout simple, puisque les parcelles me paraissaient relativement petites, alors que sur un versant, les adultes auront peut-être plus le moyen de migrer, de bouger un peu plus loin. Voilà, j'arrivais pas bien à voir sur les diapos si c'était pris en compte ou pas et la taille des parcelles.
Alors la taille des parcelles est de 100 mètres carrés. Donc les densités qui sont dedans sont les densités naturelles. Hein. C'est pas non plus des grosses densités de lézards. C'est une espèce qui vit vraiment très proche. Hein. C'est-à-dire que les densités sont assez fortes. Hein. Sur des points GPS en population naturelle, on peut aller de 1 individu au mètre carré à 12 individus au mètre carré. Donc, vous voyez, c'est des densités qui sont assez fortes. Ce qui est de la compétition entre les adultes et les juvéniles, alors, elle n'est pas maximale, hein. C'est-à-dire que les juvéniles mangent des proies plus petites. Donc en fait, il y a une compétition qui, lorsqu'ils grandissent, devient plus proche entre des juvéniles et des adultes. Donc l'impact au départ positif sur les juvéniles, c'est probablement plutôt qu'ils arrivent à manger suffisamment pour pouvoir compenser l'augmentation de leur activité. C'est-à-dire qu'ils mangent des petites proies, donc ils peuvent en manger moins pour compenser, alors que chez les adultes, s'ils augmentent leur activité, bah, il faut manger des proies plus grosses. Par contre, en effet, on peut imaginer que lorsque les juvéniles en climat plus chaud grandissent suffisamment, ils vont arriver plus rapidement en compétition avec les adultes. Et donc ça, ça peut être un des problèmes qui peut survenir. Donc ce qu'on fait, on fait des études sur plusieurs années maintenant, sur 5-6 ans, et ça nous permet de voir à long terme quels vont être les degrés de compétition. Et ça, on le mesure grâce à des outils, ce qu'on appelle de l'isotopie. Donc on peut mesurer le régime, à peu près le régime alimentaire donc des juvéniles, des adultes, et voir s'il est chevauchant ou s'il n'est pas chevauchant dans les différents climats.
Merci. J'avais vu une question. Madame ?
Oui, je vous remercie. Je n'ai pas l'esprit très scientifique, mais je suis très intéressée parce que je pense que c'est très sérieux. Merci de nous avoir projeté des espoirs en ce qui concerne les plantes, les animaux, comment on peut faire garder une végétation. Et moi, ma préoccupation aussi, c'est... Ce réchauffement climatique n'est peut-être pas évitable à 100%, mais il y a des transitions. Et j'ai évidemment pas été rassurée de ce côté-là. Il ne s'agit pas de rassurer, de calmer l'anxiété ou l'angoisse des gens par rapport au réchauffement climatique, mais il y a des transitions qui sont à la portée de tous et du... plus petit des citoyens, il peut faire quelque chose à son niveau. Évidemment, ce n'était peut-être pas le sujet, mais à la fin de cette journée, j'aimerais qu'il y ait cette ouverture pour que chacun se sente responsable de ce qu'il peut faire à son niveau, là où il est, parce qu'il va rejoindre tous les autres. Et nous sommes un nombre énorme à vouloir faire quelque chose pour ça. Peut-être pas empêcher complètement le climat de monter de 1 ou 2 degrés maximum, mais au moins de faire quelque chose et de pouvoir faire quelque chose avec les autres autour de soi.
Bon, je crois que vous venez de la faire, cette ouverture. Merci. Monsieur.
Ouais, plusieurs choses. Donc François Loiret du bureau d'études Écotone, naturaliste. Donc la première chose par rapport aux chiffres de la WWF, effectivement, il y a des chiffres qui sont sortis qui étaient assez alarmants. Mais en fait, il concerne des cortèges d'espèces qui étaient à la base déjà sensibles, avec beaucoup de vertébrés et tout ça. Donc ouais, il faut regarder ces chiffres avec quand même un petit peu de méfiance aussi. Ils étaient là pour alerter, je pense que c'est pour ça qu'ils sont passés dans les médias, mais d'un point de vue scientifique, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la rigueur de ces chiffres même. Ensuite, des questions qui sont qui vont rejoindre un petit peu la problématique de biodiversité, comme nous l'a posé tout à l'heure Michel Lioreau, à savoir qu'on se pose vraiment des questions sur le climat, sur l'incidence directe des espèces, mais on pourrait aussi se poser la question de l'incidence de produits chimiques et de la modification de ces produits chimiques en fonction des températures. Alors déjà, dans leur représentation à l'échelle globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on les trouve un peu partout, on nous dit qu'on les trouve sur le pôle Nord et le pôle Sud, on peut se poser la question aussi si on ne les trouve pas justement au niveau des combes à neige, parce qu'a priori il y a des molécules qui ont été trouvées et qui sont encore actives de pesticides ou de dérivés de pesticides dans les lacs pyrénéens, donc qui sont issus des précipitations. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, ouais, donc c'est la sensibilité de ces molécules ou des espèces par rapport à ces molécules en fonction des températures. On a l'exemple de l'ivermectine, par exemple, par rapport aux abeilles, qui est un sujet qui est assez connu, enfin, ou de plus en plus connu, sur lesquels les politiques ferment un peu trop les yeux, on va dire. Et on sait en fait que cette molécule en fait, est beaucoup plus active à des faibles températures sur les arthropodes de manière générale. Donc voilà, la question en fait sur les produits chimiques et puis aussi sur les combats neige, savoir si vous avez entrepris une étude un petit peu plus précise des qualités chimiques de l'eau rencontrée en fait dans les névés. Voilà, je vous remercie.
Ok, qui veut répondre? Allez.
Je ne vais pas répondre sur les combats neige, mais sur la première partie, je suis d'accord, c'est une thématique très intéressante. De manière générale, ce n'est pas uniquement la pollution et comment il va avoir existé cette interaction entre la modification du climat et la pollution, parce que c'est vrai, hein, c'est-à-dire que, par exemple, un organisme comme typiquement les ectothermes sur lesquels je travaille, un réchauffement peut faire qu'une accumulation des polluants dans l'organisme soit plus rapide, et donc accélérée. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des autres sources de ce qu'on appelle du changement global, c'est-à-dire la fragmentation du paysage, la pollution et l'urbanisation, et tout ça, va être renforcée par le changement climatique. C'est-à-dire que ce n'est pas des effets qui sont indépendants, mais c'est des effets qui sont cumulatifs et interactifs. Et donc je suis d'accord que l'étude de l'interaction entre le changement climatique et le développement des polluants, de manière générale, est vraiment très intéressant et prometteur, en tout cas, pour comprendre l'impact du changement climatique futur.
Oui, moi je partage aussi complètement les réflexions qui ont été faites. Hein. On ne peut pas s'intéresser au changement climatique indépendamment du reste. Et finalement, on doit regarder en fait la totalité de nos impacts sur l'environnement. Il y a des cas de figure où le changement climatique va être un effet direct et d'autres fois où ça sera un effet indirect. Un autre exemple, si on prend les écosystèmes type écosystème forestier, on peut avoir des cas où le changement climatique, les effets climatiques vont révéler en fait des problèmes qui sont liés au mode de gestion, à la simplification de l'écosystème avec moins d'espèces, avec une base génétique plus étroite, avec des espèces moins bien adaptées à l'écosystème parce qu'à un moment donné on a fait des choix d'espèces différents et ça on peut pas l'imputer directement au changement climatique. Donc ça c'est un autre exemple qui fait qu'il faut qu'on ait une vision globale et qu'on soit bien conscient, et je rebondis sur ce que disait madame tout à l'heure, sur l'ensemble des impacts de l'homme sur l'environnement. Après, pour la question précise sur les combats neige, non, on n'a pas fait, pour le moment, on n'a pas prévu d'études de ce type-là, en fait. Alors, on a prévu de faire des études de sol sur chaque combe de manière à comparer chaque site, puisqu'on a 14 sites sur l'ensemble des Pyrénées, donc dans l'analyse de ces sites, ça fait quand même un petit nombre, il faut qu'on arrive à voir aussi quels sont les autres facteurs qui peuvent jouer sur des réponses différentes d'un site à l'autre. Peut-être qu'effectivement on pourrait se poser la question de ce qu'on peut rencontrer dans ces sols-là au-delà de la composition minéralogique par exemple et les caractéristiques du sol habituel.
Nous devons clore le débat et clore les journées. Et, désolé, il y a une autre personne qui attend pour pouvoir utiliser la salle. C'est, désolé, moi j'aurais bien aimé pouvoir rester un peu plus longtemps avec vous. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions et puis ce sont des sujets qui sont très riches. Donc pour conclure, je vais passer la parole à Alain Mangin, le président de notre conseil scientifique.
Voilà, nous arrivons donc à l'issue de cette journée. D'abord, un grand merci d'avoir été présent jusqu'au bout et d'avoir été aussi attentif et d'avoir posé des questions aussi pertinentes. Hein. Un grand merci. C'est le moment de remercier un petit peu tout le monde. D'abord, de vous remercier à vous d'avoir été là, attentif. De remercier tous les intervenants qui ont su, vous, je l'espère tout au moins, vous passionner. Et j'espère que ces journées-là vous ont apporté un certain nombre de réponses, voire peut-être des questions sans réponse, mais des réponses quand même. Hein. Donc, ils ont essayé de se mettre à votre portée, ils l'ont fait. Je crois qu'il faut les remercier. Il faut remercier aussi tous ceux, toutes les petites mains, tous ceux qui, grâce à eux, ont pu faire en sorte que cette journée soit une réussite. Hein, ce sont des gens dans l'ombre qui ne se font pas ça, qui se font pas connaître, mais sachez que sans eux, eh bien, cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, remercier. Remercier également la municipalité pour son accueil qui a été chaleureuse. Vous rappelez que, effectivement, les actes, vous les aurez, Mathieu vous l'a dit tout à l'heure, vous les aurez à votre disposition à partir de janvier, semble-t-il, hein, comme d'habitude. Et sachez également que cette cinquième rencontre n'est pas vraiment terminée, puisque demain, il y a la journée des ateliers de terrain avec plusieurs ateliers. Ateliers archéologie, géologie, paysage, etc. Donc, on vous a donné tout à l'heure l'information pour le covoiturage. J'insiste vraiment, essayons de faire le covoiturage. Il faut savoir que vous êtes quand même assez nombreux inscrits et que la possibilité de se garer sur la petite route de Balaguer, elle n'est pas quand même énorme. Donc, encore une fois, merci à tous. J'espère que ces journées vous ont été profitables et le conseil scientifique est heureux d'être à votre disposition à cet égard. Merci beaucoup et à demain.